et à nous faire honte à tous. Et je vois bien que je devrais m'arrêter, mais je n'y arrive pas. Alors je lui dis que ça ne changera jamais, jamais, avec une conviction telle qu'il se met à pleurer comme un enfant, de grosses larmes coulant sur la table recouverte de déclarations d'amour et de graffitis obscènes, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ma colère, et que vienne mon tour de demander pardon. Au début du mois d'avril 1933, Pierre-Marie Romani put s'admirer à loisir dans les pages de la revue dont la journaliste lui avait, comme promis, fait parvenir quelques exemplaires. Plus encore qu'aux photographies qui lui causaient pourtant un très vif plaisir, il fut sensible au ton extrêmement laudateur de l'article. La jeune femme l'y dépeignait sous les traits d'un héros au cœur pur qui se consacrait exclusivement au service de la justice dans un monde corrompu. Elle l'appelait, dans une métaphore particulièrement hardie, « roi des verts palais », et il se réjouissait fort d'être un roi. Il s'imaginait régner effectivement sur toute chose, et les gens et les bêtes, depuis les fougères des hauts plateaux jusqu'aux rivages de pierre et de sable, il était le souverain des renards, des sangliers et des milans, des chasseurs et des métayers, des rivières et des marais salants, où vrombissait la multitude immense des moustiques porteurs de fièvre mortelle, car rien n'était suffisamment infime pour échapper à son autorité. Un tel pouvoir n'avait pu être obtenu qu'au prix d'un lourd tribut d'horreur et de sang. Mais il était normal, après tout, qu'un roi dût traverser des épreuves que les simples mortels ne pouvaient ni connaître ni même imaginer pour en recevoir l'onction terrifiante. Seul celui qui a traversé victorieux la vallée de l'ombre de la mort est digne de régner sans plus se soumettre aux lois humaines. Pierre-Marie Romani pensa qu'il ne convenait plus à sa nouvelle dignité de continuer à dormir chez ses parents. Il passa désormais ses nuits en forêt, sur des lits d'herbes sèches. Il surgissait au crépuscule dans les villages, annonçait à des familles apeurées qu'elles auraient le privilège de le recevoir à leur table, et repartait en emportant leur pain, leur huile, un poulet, un agneau ou un porcelet. On commença à raconter qu'il exterminait tous ceux qui s'opposaient à lui, que le délai le plus insignifiant dans l'exécution de ses ordres, le plus petit manque d'enthousiasme était considéré comme un crime de lèse-majesté passible de la peine de mort. Des témoins rapportaient qu'il avait assassiné une famille de 5 personnes, enfants et femmes comprises. Quoique nul ne pût préciser où et quand le massacre avait eu lieu. On disait encore qu'il considérait comme ses ennemis personnels tous les représentants de l'État au point qu'il aurait abattu sans sommation un garde champêtre coupable de l'avoir croisé pendant sa tournée. Et on ne comptait bien sûr plus le nombre de gendarmes tombés sous ses balles vengeresses. On le disait familier des esprits de la nuit, indifférent aux cris de la sorcière et aux processions de défunts qui s'avançaient lentement, juste avant l'aube, le long de la rive des fleuves. Il est certain que cela, au moins, n'était pas vrai. Pierre-Marie Romani avait peur des ténèbres, et il sanglotait parfois tout seul, recroquevillé au pied d'un arbre en pensant à la chambre de son enfance, tandis que la chouette ululait et que l'aile noire des chauves-souris frôlait sa joue. La solitude qu'il avait tant appréciée jadis s'était transformée en une chose terrible, impossible à fuir ou à rompre. Il se sentait perdu dans l'exil de sa grandeur. Il ne pouvait condescendre à être l'ami de quiconque. Son destin lui avait rendu étrangère sa propre famille. Il se persuadait qu'avant son départ, la journaliste aurait aimé s'offrir à lui. Elle l'admirait tellement. Elle avait écrit des choses si merveilleuses à son sujet. Sûrement, elle ne se serait pas refusée. Et il imaginait leur étreinte sauvage, une étreinte qui, même s'il ne pouvait, faute d'expérience, en représenter exactement les détails, l'aurait sauvé de cette solitude qui ne pouvait convenir qu'à un dieu. Mais il n'était que roi. Et il se sentait le droit de trouver une reine. Au mois d'août, alors qu'il traversait un village, il vit des jeunes filles à la fontaine qui remplissaient leurs cruches à tour de rôle. Il s'assit un instant sur un mur pour les regarder. Une seule d'entre elles avait les yeux bleus, des yeux qui le fascinèrent. Elle pouvait avoir 13 ou 14 ans, et il sembla à Pierre-Marie qu'elle avait, malgré sa robe rapiécée et ses pieds nus, la beauté altière d'une princesse du sang. Il décida qu'il venait de trouver l'amour. Quand il s'approcha d'elle, elle s'arrêta net en le fixant de son regard bleu, tandis que les autres filles continuaient leur chemin en portant précautionneusement leurs lourdes cruches.